Et maintenant, nous vous proposons de suivre une conférence sur le thème Vatican II et le Pays Basque, présentée par l'abbé Michele Palza. Il était enregistré à l'occasion d'un cycle de conférences organisé par la paroisse Saint-Pierre de l'Océan, cycle intitulé « 60 ans après le Concile Vatican II, célébrons l'espérance ». Nous écoutons l'abbé Michele Palza.
Bon, Gawon, Chaldeon, bon après-midi, merci d'être là. Bon. Et voilà, je dis aussi merci à mon ami Ernest, qui a organisé ce cycle de conférences pour les 60 ans de Vatican II, 62-65, donc ça fait 60 ans que Vatican II a clôturé, et sous le titre « Une église vivante, un monde à aimer ». Et j'aime ce titre, parce que c'est en aimant le monde que l'église vit. C'était l'évangile de dimanche, je ne suis pas venu pour condamner le monde, mais pour aimer. Voilà. Bon. Alors, ma conférence, c'est le Vatican II et le Pays Basque. Comment au Pays Basque ? Pays Basque Nord et Pays Basque Sud. Bon, vous savez qu'il y a une frontière, mais que le Pays Basque est un avec cette province, etc. Bon. Alors, comment le Vatican II a été reçu dans notre chère escolerie ? Bon. Alors, il y aura plusieurs parties. Bon, ça va durer dans 35 ou 40 minutes à peu près. Je vous avertis, quoi. Bon. Et d'abord, ce sera justement l'adaptation avec la langue basque, l'euskara, comment ça a été adopté. Et puis, ça va retourner au Pays Basque Sud, comment, en plein franquisme, comment Vatican II a agi. On verra que ça sera un vrai tsunami. Puis, je pense que c'est quelque chose d'important, parce qu'on l'a vécu comme ça. Moi, je suis un enfant de Vatican II. Hein. Et l'importance qu'il y a eu, les chrétiens d'Amérique du Sud, comment ça a joué énormément sur les chrétiens du Pays Basque, d'ailleurs. Et puis, quelques points sur... par exemple, les prêtres ouvriers, tout ça. Et puis sur la mer, on m'a demandé de parler sur la mer. Le Vatican II n'a rien dit sur la mer, mais il y a quand même des choses à dire. Et puis une petite conclusion. Voilà. Donc, cette première partie, le Pays Basque Vatican II et la liturgie en euskara. Dans son discours de clôture du Concile Vatican II, le 8 décembre 1965, le pape Paul VI a prononcé ces paroles. L'idée de service a occupé une place centrale durant le Concile. L'Église s'est proclamée la servante de l'humanité. La vieille histoire du bon samaritain a été le modèle et la règle de la spiritualité du Concile. Une sympathie sans borne pour les hommes l'a envahi tout entier. Voici un exemple, dit le pape. Les langues innombrables parlées par les peuples d'aujourd'hui ont été admises à exprimer liturgiquement la parole des hommes à Dieu et la parole de Dieu aux hommes. Fermez la parenthèse, c'est les guillemets. C'est une parole forte. Parce qu'un des fruits du Concile Vatican II a été une liturgie adaptée à chaque culture. Pour la première fois, les fidèles prient à la messe dans leur langue, et ça dans le monde entier. Le prêtre ne tourne pas le dos quand il célèbre la messe, mais il regarde l'assemblée. Moi, j'étais enfant de chœur, ben, le prêtre il tournait le dos. Et ce n'est plus le cas. Pour la première fois, les laïcs, hommes et femmes, montent à l'autel pour lire les textes bibliques, pour donner la communion, pour offrir leur prière dans leur langue. Les homélies deviennent riches du dialogue avec le monde où Dieu nous parle. Et derrière ces nouvelles formes, donc les nouvelles langues, il y a un nouveau fond théologique. Le ministère sacerdotal est au service du peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu, il est fondé sur le sacerdoce commun des fidèles, le sacerdoce baptismal. Vatican II n'a cessé de le répéter. Donc, nous sommes ensemble, laïcs, religieux et prêtres, le corps du Christ. Dans la théologie de Vatican II, le prêtre n'est pas un alter Christus, un autre Christ, mais un membre du corps du Christ que nous formons tous. Et je cite le décret sur le ministère et la vie des prêtres, au numéro 9. Au milieu de tous les baptisés, les prêtres sont des frères parmi leurs frères, membres de l'unique corps du Christ dont l'édification a été confiée à tous. Dans la liturgie latine, a été traduite en plusieurs centaines de langues vernaculaires, dont l'euskara. Voyons comment s'est passée cette naissance de la liturgie en langue basque. C'est quand même une très belle aventure. En réalité, en amont du concile, tout un travail de préparation a été réalisé. Par l'adoption de la Constitution sur la liturgie le 4 décembre 1963, le concile favorise la floraison de ce qui a été semé par le grand travail de traduction en basque démarré déjà en 1947. Cette année-là a eu lieu un événement sans précédent à l'église de Mouguère. La célébration des vêpres en basque, la première fois. Pour la première fois sont chantés en basque les psaumes traduits par Ila Ceder, Xavier Diars, moine bénédictin originaire de Saint-Jean-de-Luz, et mis en musique par le père Gabriel Lertchundi, lui aussi moine de Belloc, sibourien. Deux piliers de cet immense chantier, Lertchundi et Ila Ceder. Et grâce au travail de recherche du père de Belloc, Marc Doucet, à qui j'avais confié, bon, il y a ce travail à faire par rapport au Pays Basque. J'avais écrit, j'avais fait une conférence dans le temps, bon, il me l'a passé, donc je peux tracer grâce à ce travail-là les grandes lignes de cette aventure qui s'inscrit en fait dans une longue tradition de musique liturgique au Pays Basque. Dès 1630, le curé de Cibourg, Johannes Echeverri, publie Noëlac, les chants de Noël en basque. Et en 1948, Lertchundi, donc le moine, fait paraître Canticac, un ouvrage monumental formé de chants recueillis dans les paroisses basques. Et Belloc continue son œuvre avec la composition de Passionea, Gaucha Indua, chant de la nuit de Pâques, et Gouberi, Noël, et la traduction de tous les psaumes, Chalmoac. Le chanoine Narbaïtz fait paraître, lui, Elisa Koliburua, le livre d'église en 1961 en basque. Mais il restait à traduire la messe en euskara. Le 7 mars 1964, Monseigneur Vincent, qui a succédé à Monseigneur Paul Bouillon en 1963, a réuni les prêtres des paroisses basques au grand séminaire de Bayonne pour voir comment répondre aux vœux des pères conciliaires. Et la majorité des prêtres présents se prononça en faveur d'une liturgie entièrement en basque. Et c'est l'abbé Pierre Andiasabal, originaire d'Urugne, qui fut le grand artisan de cette mission. Résultat de son immense travail de traduction en euskara, le lectionnaire de semaine, c'est-à-dire tous les textes des semaines, 586 pages, lectionnaire des dimanches, ABC, 421 pages, lectionnaire des fêtes du temps de l'Avent, de Noël, de Carême et de Pâques, traduction des textes des messes du Concile de Vatican II de 1962 et 1971, un immense boulot. Et le jour de Pentecôte, 1964, non, ça fait pas longtemps, hein, fut célébrée la première messe en basque lors d'une session de prêtres du diocèse de Bayonne, en 1964. Le 5 décembre 1965, Rome autorise la langue basque pour l'ordinaire de la messe, donc un travail commun de traduction démarre entre les prêtres des diocèses de Bayonne, Saint-Sébastien, Bilbao, et Pampelune. Et voilà, parce que... Bon, mais quel basque ? Le Navarro-Labourdin, le Navarrais, le Chiverou, et le Biscayen, le Guipuscoan, quel basque ? Il y avait plusieurs dialectes, c'est la même langue, mais avec des connotations différentes. Et donc on se réunit, et c'est ainsi que naît cette merveille que fut le Gureaïta, que nous chantons tous. Gureaïta, à l'époque où le basque unifié n'existait pas. En fait, pour la petite histoire, c'est... à Rome, ils sont très intelligents, quoi, ils s'adaptent. Il leur dit, bon, envoyez-nous une traduction que vous accepterez entre tous, en basque, et après chacun adapte à sa manière, dans sa sauce, on ne veut pas savoir. Donc c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc il y a des revues qui ont porté tout ce mouvement-là, Otoïs Lali de Belloc et Yaularen Deia de Lascano, qui ont accompagné ce cheminement remarquable. Un ami de Belloc, qui tenait l'orgue de Saint-Jean-de-Luz, et maître de chœur, que certains parmi vous ont bien connu, Juan Urteaga, originaire d'Irun, lui a réalisé un grand travail de création musicale de 107 chants liturgiques basques à 3 ou 4 voix, publié par l'édition Esquila de Belloc, toujours en lien avec Iratzeder et Lertxundi, ainsi que le père Ignace Chandi, lequel établit un répertoire des cantiques basques. Alors, il y a un grand liturge français qui avait pignon sur lui à l'époque, qui s'appelait le père Gélino, qui a aussi écrit des chants, grand compositeur. Donc, de passage à Belloc, il prend connaissance de cette somme de travail accompli et il dira « Un si grand travail pour un si petit peuple ». Bon, je lui ai répondu que c'est un grand peuple, le plus ancien peuple d'Europe. Enfin, ça, c'est... De cette germination musicale vont éclore, mais qu'est-ce qui va éclore ? Mais les chorales basques. En 1966, les chorales Begiraleak, Oltara et le chœur des moines de Belloc viennent à Saint-Jean-de-Luz pour chanter la messe des corsaires sous la direction de Juan Urteaga. Et en 1969, voit le jour la commission des chorales du Pays Basque, le 23 novembre, première rencontre, Canta Yaunari, des rencontres de chorales qui continuent maintenant. Donc ça commence le 23 novembre 1969. 600 choristes venus des paroisses du Pays Basque. En 2015, paraît le précieux livre Élise Cantu Organoa Lagun, dans lequel Jean-Marie Eyers reprend le classeur de l'organiste, l'abbé Bortaïr, où il y a tous les chants basques avec pour l'orgue. Il faut signaler aussi le travail de versification des évangiles de Roger Hidiard, celui des compositeurs Chalbat Berterech, Gurekinegon, vous connaissez, le chant Gurekinegon, bon, voilà, c'est Chalbat Berterech, Jean Larieux, Michel Ramospé, Grachi et Panchika Solorzano. Bon. Signalons aussi le travail de l'association Fededunak, issu du Concile pour le renouveau du catéchisme en basque à partir de 1969. Et parallèlement, le père bénédictin Marcel Echandi entreprend une œuvre gigantesque, 35 années de travail pour la traduction complète de la Bible parue en 2007, en Navarro-Labourdin. Je rappelle que le premier qui s'était attaché à la traduction d'une partie de la Bible, enfin de la traduction du Nouveau Testament, Itun Berria, c'est Johannes Lizarrag, qui était un curé du diocèse de Bayonne, qui est devenu calviniste, protestant. Et donc, pour les protestants, Scriptura Sola, l'écriture, c'était très important. C'est lui qui, donc, traduit pour la première fois le Nouveau Testament en basque, et c'est édité à La Rochelle en 1571. Voilà le résultat donc de cette greffe réussie entre l'Église du Pays Basque et les orientations du Concile. Il fallait faire prier et chanter le peuple basque et pour cela lui permettre de le faire dans sa langue, l'euskara, alors qu'elle était réprimée en Espagne, ce n'est plus le cas, elle est officielle, est non officielle en France, elle est toujours non officielle en France. Mais il y a une ombre au tableau, il y a toujours le soleil et l'ombre, ça c'est, on connaît, c'est l'affaire du grand séminaire de Bayonne, de 1966 à 1968. Fort des enseignements du Concile, quatre séminaristes basques demandent que la langue et la culture basque soient intégrées dans la formation du séminaire. C'est une chose normale. Il y a eu un refus des autorités diocésaines, du supérieur, de l'évêque, etc. Il y en a un qui quitte le séminaire quand il voit ça, et les autres furent exclus. Un professeur de théologie de l'époque, qui deviendra évêque, Monseigneur Bernard Housset, évêque de La Rochelle, Montauban de La Rochelle, quelqu'un que je connais bien, donna sa démission en soutien des séminaristes. Il s'en explique, il dit « La requête formulée par les quatre séminaristes auprès de leur hiérarchie coïncidait avec la mise en œuvre de la réforme liturgique du Concile Vatican II. J'ai estimé en conscience que les conditions de cette exclusion étaient réellement injustes. » Les quatre séminaristes, Manesh Pagola, Kishan Alfaro, Beignat Sarasola, Johannes Borda, deviendront des références de la chanson et de la culture basque. Au grand séminaire de Pampelune, à la même époque, diocèse très marqué par l'Opus Dei, c'est le recteur, que j'ai bien connu aussi, le père Jesús Lezão, qui fut destitué par son évêque en 1967, après 2 ans d'exercice, parce qu'il essayait d'appliquer les orientations conciliaires. Cela témoigne de l'esprit anticonciliaire de certains évêques espagnols présents à Vatican II. Vous voyez que ce n'est pas facile d'intégrer Vatican II. Mais à Bayonne, avec la nouvelle équipe des pères du séminaire, sous la direction de l'abbé Pierre Dufour, que vous avez connu à Saint-Jean-de-Luz, et même à Cibourg, à Socoin, bon. En 70, donc, ben, moi j'intègre cette dernière partie du grand séminaire à l'époque, nous avions obtenu qu'un jour entier soit réservé à la langue basque, tant pour célébrer la messe que pour les divers ateliers. Et il y avait aussi, par ailleurs, l'obligation d'une insertion paroissiale, pour que le prêtre ne soit pas azimuté, mais et aussi d'un engagement social. Personnellement, j'avais lancé les cours d'alphabétisation à la ZUP pour les Marocains, Portugais, etc. Bon. Bon, voilà cette histoire de la langue. Et cela me conduit à traiter un autre volet important, c'est l'impact de Vatican II dans l'histoire ecclésiale et sociopolitique du Pays Basque. Là, on va faire un petit voyage à Egualdé, au Pays Basque Sud. Donc c'est la deuxième partie. L'église de Egualdé sera secouée par celles et ceux qui porteront le souffle de Vatican II. Alors, c'est important de se situer dans la société d'il y a 60 ans pour comprendre la constitution conciliaire, l'église dans son temps. C'était une constitution conciliaire aussi fondamentale, l'église dans son temps. Gaudium spes, voilà, c'est... Et à l'époque, l'Afrique, l'Amérique latine, l'Asie sont en ébullition dans les années 60, 61, 62, pour se libérer de l'impérialisme colonial. Il y a une ébullition. Le début du Concile fait suite à la fin de la guerre d'Algérie et à l'indépendance des colonies africaines. Et en février 1965, en plein Concile, eut lieu la conférence afro-asiatique d'Alger, en présence de responsables de 75 États et aussi de Che Guevara, représentant le gouvernement cubain et d'autres populations sud-américaines. Celui-ci, le Che, propose une troisième voie en dehors des blocs communistes et capitalistes. Une troisième voie, c'est-à-dire une révolution fraternelle, universelle, en faveur d'un développement à partir des plus pauvres. Il amorce cette révolution en Bolivie, dans le pays le plus pauvre qu'il y avait à l'époque, dans la clandestinité. Il fut largué par ses camarades communistes boliviens et cubains. Et il sera abattu et deviendra une icône universelle, un martyr laïque. un prêtre colombien prendra aussi les armes pour la même idée, Camilo Torres, en Colombie. Il sera abattu le 15 février 1966. D'autres prêtres rejoindront la guérilla de Colombie. En plein concile aussi, on peut noter qu'il y a un homme qui va réaliser à Rome, donc, en plein concile et à Rome, une grève de la faim de 40 jours pour demander aux évêques de se déclarer contre l'armement nucléaire et pour la non-violence active. Il s'agit de Lanza del Vasto, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui était un disciple de Gandhi. Il y a le grand mouvement aussi à l'époque contre l'apartheid en Afrique du Sud, celui mené par Luther King aux États-Unis, contre le racisme envers les Noirs. Et puis nous avons connu en 68, mais c'est après, en France et en Europe, le mai 68, cet grand mouvement de libération quelque part, de quoi on ne sait pas trop, mais enfin ça a été quelque chose qui a bousculé la société, le monde, en particulier le monde de la jeunesse. Alors les évêques qui sont réunis en concile reçoivent de ce monde-là, il faut se situer à l'époque, quoi, ce souffle de libération, ils offriront leur souffle à eux, c'est celui qui vient de Jésus-Christ ressuscité de son message. On dit que le Concile Vatican II commença véritablement avec l'intervention du cardinal belge Suenens. Suenens, je ne sais pas si on dit quelque chose, mais il a joué un rôle important. Quand il a pris la parole, il a fait référence au dossier, parce que tous les évêques avaient des dossiers que la curie avait préparés à l'avance, vous savez, pour qu'on ne s'écarte pas trop du dogme, de la ligne, etc. Donc, tout est très préparé à l'avance. Et donc, il parle de ces dossiers et il dit « Mihi non placet ». Cela ne me plaît pas. S'en suivit un tonnerre d'applaudissements. Et la libération de la parole, loin des discours préparés à l'avance. Ça, c'est important. Donc, il y a une révolution copernicienne de Vatican II. Ça a été de mettre l'Église au cœur du monde, et non pas au-dessus du monde, avec sa vérité toute faite. Au cœur du monde. D'entretenir le dialogue avec tous les hommes de bonne volonté. De vivre l'Évangile en étant un levain dans la pâte humaine, en suivant les pas des disciples d'Emmaüs, marcher dans le monde éclairé par l'Évangile, en reconnaissant avec un cœur chaud le Christ ressuscité au partage de la parole et du pain. Et souvent, le Concile a fait référence au chemin d'Emmaüs. Le souffle conciliaire, avec les textes importants des papes Jean XXIII et Paul VI, vient rappeler à toute l'Église que la promotion de la justice fait partie intégrante de l'évangélisation. L'Église prend conscience de sa mission dans le monde, annoncer la foi en prenant part au combat pour un meilleur partage des richesses et un engagement au service de la justice. Les aspirations des peuples à plus de liberté, les mouvements vers le respect des droits des personnes et des peuples deviennent ainsi des signes des temps, des appels de l'Esprit-Saint à se joindre aux souffrances et aux appels. Ce mouvement courageux envers la justice, insufflé par Vatican II, agira comme un tsunami au Pays Basque Sud écrasé par la dictature de Franco, laquelle était soutenue par l'ensemble des évêques espagnols, en incluant ceux des diocèses basques, et cette dictature qui était aussi soutenue par le pape Pie XII, comme en témoigne le télégramme que le pape avait envoyé au général Franco le 1er avril 1939, à la fin de la guerre civile. Ce télégramme qui dit « En élevant notre cœur vers Dieu, nous nous réjouissons avec votre excellence » de la victoire tant désirée de l'Espagne franquiste. Voilà. Deux évêques subiront l'exil du fait de ne pas se soumettre au caudillo, l'évêque basque de Vitoria, il y avait un seul évêché pour tout le Pays basque, Monseigneur Mateo Mujica, qui était réfugié à Cambo, et celui de Tarragona, en Catalogne. Enfin, mais pour la première fois depuis le soulèvement du caudillo en 1936, l'Église universelle, réunie en concile, dénonce les dictatures. Et à la période Vatican de 62-65, l'Espagne est marquée encore par la répression sociale, culturelle, politique. La dictature battait pleinement avec un syndicat unique, le syndicat du régime. Un parti unique, celui du pouvoir, de la Falange. L'écrasement de toutes les langues, sauf le castillan, bien sûr. Aucune liberté d'expression. Et le soutien de la dictature de Franco sont l'armée, l'oligarchie et l'Église, avec l'Opus Dei au pouvoir. Euskadi, Pays Basque, sort endolori par la guerre civile, avec ses milliers de morts et de réfugiés, avec l'anéantissement de Guernica par les nazis, avec la perte du gouvernement dirigé par le démocrate chrétien José Antonio Aguirre. Le peuple basque reste massivement chrétien, mais opprimé comme basque et en attente d'un soutien du Vatican. Donc Jean XXIII va créer un tremblement de terre avec l'encyclique Mater et Magister en 1962, qui est une encyclique qui est en faveur, je cite, « d'une église qui promeut la promotion sociale, culturelle, politique de chaque citoyen ». C'est des paroles à l'époque qui étaient lourdes de conséquences. Et Pacem Interis de Paul VI, en 1965, c'est un plaidoyer pour les droits des personnes et des peuples. C'est en guillemets ce que dit le concile, enfin le Pacem Interis, pour les droits des personnes et des peuples et pour un régime démocratique. C'était vraiment un coup de pied dans la fourmilière franquiste. Donc au concile souffle un vent d'espérance qui vient de partout, surtout des pays qui ont soif de justice et de liberté. Et le premier paragraphe de la Constitution sur l'Église dans notre temps, c'est-à-dire Gaudium Spes, est un authentique trésor que vous avez entendu très souvent lors des homélies. Les joies et les espoirs, les tristesses, les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout, et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ. Il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. La communauté des chrétiens se reconnaît donc réellement et intimement solidaire du genre humain et de son histoire. Fermez les guillemets. C'est des paroles très fortes, très nouvelles. Les pères conciliaires s'accordent pour affirmer, j'ouvre les guillemets, l'Église reçoit la mission d'annoncer le royaume du Christ et de Dieu et de l'instaurer dans toutes les nations. Dans les principes, c'est magnifique. Mais l'Église ne dit pas qui fait quoi et comment on y arrive. À Rome, l'Église sort des plis du dictateur et demande le respect des droits des personnes et des peuples. Mais à Madrid et à Bilbao, les évêques restent soumis à Franco. Dans la réalité du terrain au Pays Basque, rien ne change. Bien au contraire, la répression se poursuit. C'est la naissance de États qui pratiquent la lutte armée pour défendre les droits en question, en 1959. Et une chose fondamentale va changer. La conviction que lutter pour la justice, la liberté et les droits fait partie intégrante de l'engagement chrétien. Ça, c'est quelque chose de très lourd et de fondamental à comprendre. Je cite les paroles du pape Paul VI en 1971 à l'occasion du 80e anniversaire de l'encyclique Rerum Novarum de Léon XIII. Peut-être Léon XIV en prendra une autre. La lettre du cardinal Roy, la lettre au cardinal Roy, qui dit ceci, « La mission de prêcher l'Évangile, dit le pape, exige aujourd'hui l'engagement radical pour la libération intégrale de l'homme, dès maintenant, dans la réalité même de son existence en ce monde. » Alors les prêtres des diocèses de Basque recevaient de lourdes amendes à cause de leurs prêches, nourris des idées de Vatican II, et aussi à cause de leur aide aux mobilisations d'ordre syndical, culturel ou politique. Il faut savoir qu'on est sous le régime du Concordat, que les prêtres avaient des salles, l'église, etc., que la police, normalement, ne pouvait pas rentrer là-dedans. Donc, y a beaucoup de choses, de réunions qui se sont passées là pour le développement de l'Eshkara, pour toutes ces, je me souviens à l'époque, de réunions de syndicats, de politiques, etc. Alors, ne pouvant pas payer les amendes, mais ils étaient envoyés dans des monastères loin du pays, sorte de prison vis dans ce régime concordataire. Juste avant le concile, en 1960, 339 prêtres de toutes les provinces de Bilbao, Vitoria, Saint-Sébastien et Pampelune écrivent une lettre au pape, aux nonces, aux évêques espagnols, où ils dénoncent la répression policière, le manque de liberté. Ça reste sans réponse. Et voilà qu'en novembre 68, 60 prêtres diocésains des paroisses du diocèse de Bilbao se mobilisent en faveur d'une église libre, pauvre, basque, proche du peuple. Animés du souffle nouveau de liberté évangélique émanant du Concile Vatican II, ils chantent « Es esdunai »« Je ne veux pas de cette civilisation ». Ils demandent aussi une province ecclésiastique basque. Il faut savoir que Franco avait divisé le diocèse qui unissait Biscaye, Guipuscoa et Alava en trois diocèses, divisés pour mieux régner. Pendant que trois prêtres vont présenter leur requête au Vatican, donc il y a 60 prêtres qui s'enferment au séminaire, au grand séminaire de Delio, en soutien. La visite au Vatican ne donnera rien, ils sont reçus par un secrétaire et repartent avec des chapelets, mais aucun soutien du Vatican. Le régime du Concordat ne permettait pas à la police d'entrer dans les lieux appartenant à l'Église, mais l'évêque donne libre accès à la police pour déloger les prêtres du séminaire de Delio. Et en mai 69, vite après, quatre d'entre eux recommencent le combat en faisant une grève de la faim à l'évêché de Bilbao. Eux aussi seront délogés par la police et emprisonnés durant 12 ans dans la prison concordataire de Zamora, ouverte pour eux expressément. Dans cette prison, il y a eu 54 prêtres hostiles à la dictature qui seront emprisonnés, dont 43 basques. Parmi eux, le célèbre Ercholari, Xavier Amurissa, prison qui a duré jusqu'en 77 après la mort de Franco. Colette Magny, chanteuse communiste de Marseille, que certains connaissent peut-être, s'approprie le chant Es esdunai, non, je ne veux pas de cette civilisation-là, et considère ses curés comme des camarades. Voici quelques paroles de cette chanson, Camarade curé, de Colette Magny, reprise et inspirée de la chanson de l'ex-prêtre Julen Lekuona, Es esdunai. Elle chante ainsi, Camarade curé, l'évêque t'interdit d'exercer ton ministère. À la rigueur, tu peux dire la messe, mais surtout, surtout ne pas prêcher, car tes sermons, les fidèles, ça risque de les dévoyer. Tes prêches, le peuple les aimait, car tout ce que tu disais, ça les concernait dans leur cœur, dans leur vie, dans leur façon de penser. La sanction qui t'a frappé, c'est par le peuple qu'elle est assumée et jugée. Non, je ne veux pas d'une civilisation comme celle-là. Voilà, c'est... Comme quoi, voilà, à Marseille, complètement, on ne sait pas comment cette personne-là a intégré ce message des prêtres. Donc il y aura forcément, vous l'avez compris, une cassure entre la hiérarchie et le bas clergé, entre la hiérarchie et le peuple. Beaucoup de prêtres, enthousiasmés par Vatican II, mais profondément frustrés par l'attitude de certains évêques, quitteront le sacerdoce. D'autres couperont définitivement les liens avec cette Église qui annonce un monde plus fraternel, juste, libre, et qui se dérobe au moment d'accompagner ses membres engagés dans ce sens. Mais naîtra aussi une Église de chrétiens animée par la foi en Jésus-Christ et la fidélité au peuple basque. Et en 1974, l'évêque de Bilbao, Mgr Añuelos, aura le courage de demander au cours d'une homélie de carême que s'appliquent au Pays Basque les directives du Concile Vatican II et du pape concernant les droits des personnes. Texte intitulé « Le christianisme a un message de salut pour tous les peuples ». Il sera sévèrement traité par le nonce et le régime de Franco. Il faudra attendre les années 80
pour voir les évêques basques José María Setién et Juan Mari Uriarte défendre énergiquement les droits du peuple basque et soutenir un chemin de paix basé sur la justice et la non-violence active. En fait, Rome ne reconnaîtra jamais l'identité du Pays basque. Les prêtres fusillés par les Rouges durant la guerre civile de 1936 ont été béatifiés. Les 17 prêtres basques fusillés par Franco demeurent des martyrs ignorés. Mais je veux terminer par une note positive, c'est que à cette époque est née une mobilisation de type économique et social d'une envergure exceptionnelle grâce au vicaire de Mondragon, l'abbé José María Arizmendi Arrieta, qui, avec des chrétiens de la paroisse, lance le mutualisme, le coopérativisme, la coopérative Mondragon. C'est une réalisation extraordinaire. Déjà en 1965, cette coopérative représentait 4400 emplois dans un pays qui était assez désertique au niveau économique. C'est quand même quelque chose de très fort. Et aujourd'hui, on en est à plus de 80 000. C'est en dehors du concile, mais ça veut dire que bon, avec l'application de ces principes du respect de l'homme et du courage à travailler dans l'esprit coopératif, ça a donné une éclosion de ce monde qui continue à être une force en Europe. Si vous voulez, maintenant, on va continuer ce voyage. Bon, après ce passage un peu sombre, mais il faut dire la vérité telle qu'elle est, puisqu'il s'agit de comment le Vatican II a été reçu au Pays Basque. Vous avez vu comment ça a été difficile au Pays Basque Sud. Alors qu'à l'époque, je ne sais pas en quelle année, c'était en 62, il y a eu les hauts fourneaux du Boucau qui avaient fermé, et Monseigneur Bouillon, qui était encore évêque, avait manifesté pour le maintien de ces hauts fourneaux, parce que c'était des milliers d'emplois qui étaient fermés, et aux côtés de la CGT, du Parti communiste et des autres syndicats, Monseigneur Bouillon avait manifesté pour que ce soit vous qui avez déjà présence. Alors maintenant, je vous invite à aller en Amérique latine, parce que ça a eu un impact universel. Parce que c'est le continent qui a le plus intégré le Concile, qui a vécu quelque chose de très très fort à partir, il faut s'imaginer à l'époque, un continent sous-développé, avec vraiment des misères très très importantes, et ça a eu une influence sur beaucoup de chrétiens d'Europe, et en particulier du Pays Basque, et des chrétiens et des prêtres. Le Concile Vatican II allumera une grande flamme dans l'Église d'Amérique latine, qui avait envoyé 601 évêques à Rome. 601 évêques d'Amérique latine. À Medellín, Colombie, en 1968, les évêques prennent une orientation décisive, l'option préférentielle pour les pauvres, en réponse au scandale de la misère et du sous-développement des populations. La théologie de la libération soutient l'éclosion des communautés chrétiennes de base, c'est-à-dire des chrétiens qui se réunissent dans les quartiers pour voir comment aider les familles, comment, et en même temps, l'évangile, l'Eucharistie, et en même temps, l'implication, l'engagement social, en réponse au scandale de la misère et du sous-développement. La théologie de la libération soutient donc l'éclosion des communautés chrétiennes impliquées dans les quartiers pauvres et les zones rurales écrasées. Cette théologie, formulée entre autres par Gustavo Gutiérrez, que j'ai rencontré à Lourdes à l'occasion de Diaconia, prône le sacrement du frère. J'avais faim, tu m'as donné à manger. Une figure sortira, c'est Don Elder Camara, nommé archevêque de Recife en 1964, apôtre des pauvres du Brésil et du monde. Avec Pedro Arrupe, général des jésuites, originaire de Bilbao, les jésuites s'engagent dans cette voie auprès des plus pauvres. C'était aussi un changement total pour eux. L'Église latino-américaine a ouvert la voie d'une Église à la fois engagée dans un projet de libération sociale, politique, économique, culturelle, et dans une pratique populaire de la Bible comme ferment de renouveau. La Bible a été traduite en 216 langues autochtones d'Amérique latine. C'est énorme. 216 langues autochtones. Entre 1965 et 2008, 60 millions d'exemplaires de la Bible latino-américaine ont été vendus. 60 millions, c'est énorme. 120 000 Bibles de Jérusalem par an. Comme vous le savez, Jean-Paul II aura, si vous ne le savez pas, je vous le dis, aura la main lourde contre la théologie de la libération et ses théologiens. On se souvient comment il avait traité, je ne sais pas, c'est une image qui nous reste à tous, le prêtre jésuite Ernesto Cardenal, ministre de la Culture de Nicaragua, et donc le pape descend de l'avion, à sa descente d'avion sur le tarmac, il y a tout le gouvernement qui l'accueille, et donc Ernesto qui se met à genoux devant le pape, et le pape qui l'engueule, on le voit quand même, c'est pas un prêtre, être ministre, etc. Enfin bon, voilà. Donc Jean-Paul II aura la main lourde aussi contre le pape, contre le père, le pape blanc, le pape noir, pardon, le père Pedro Arrupe et les jésuites qui seront réhabilités plus tard par le pape François, jésuite argentin Jorge Bergoglio. Voilà, le concile en fait a allumé un feu dans l'âme des chrétiens des pays ravagés par la misère et l'injustice, un feu que le pouvoir civil et parfois les hiérarchies catholiques essaieront d'éteindre. Une église de martyrs naîtra avec Monseigneur Oscar Romero, assassiné en pleine Eucharistie au Salvador, et plusieurs dizaines de laïcs, de religieuses, de prêtres, dont en Nicaragua le jésuite basque Ignacio Illacuría, originaire de Bilbao. J'ai aussi un compère qui était aumônier de Jorge à l'époque, on se réunissait à Tarbes, André Jarlan, qui était parti, il fait fidei donum au Chili, et qui a été tué là-bas d'une balle dans la tête. C'était un homme des plus paisibles que j'ai connu. Bon. Cette flamme donc touchera le cœur de beaucoup de chrétiens du Pays Basque. Une dizaine de prêtres du diocèse de Bayonne ira là-bas comme fidei donum, et des centaines de prêtres des autres diocèses basques, dont Monseigneur Vitor Garay Gordobil. Alors, c'est des noms compliqués, parce que c'est en biscayon. Garay Gordobil, ça fait. C'est pas. Et Vitor, moi, je l'ai rencontré à Urkiola, parce que c'était sa retraite à Urkiola. C'était. Donc, il a été un père conciliaire. Et dès 1946, ce prêtre originaire d'Abadiano, en Biscaye, à côté de Durango, il part en mission en Équateur, dans la prélature de Los Ríos. Nommé évêque de ce diocèse en 1964, il participe donc au concile et il prend la parole sur deux points en se basant sur son expérience apostolique. Il dit que c'est important que l'évêque soit épaulé par un conseil presbytéral, que l'évêque aille rencontrer les prêtres pour savoir ce que l'Église vit. Pour être proche du peuple, dit-il, l'évêque doit écouter les prêtres qui sont au quotidien proches des familles pour comprendre leur joie et leur peine. Donc, d'un côté, l'importance de que l'évêque ne soit pas isolé, mais qu'il soit entouré de prêtres, même de laïcs, hein, c'est très important. Et l'autre aspect qu'il partage au père conciliaire, c'est celui qui touche les prêtres fidei donum. Alors j'explique, le pape Pie XII, en 1957, a demandé aux prêtres de donner de leur temps comme prêtres en Afrique, en Amérique latine, dans ce décret fidei donum. L'apport intéressant de Vitor Garay Gordobil se résume dans sa réponse quand on lui demande d'être évêque. Il dit « J'accepte cette nomination d'évêque comme un membre du groupe missionnaire basque. » Il suggère que ce ne soit pas un prêtre isolé qui part en mission, mais une église diocésaine, un groupe de laïcs, hommes et femmes, de religieuses, de prêtres, formant une communauté missionnaire. Et cela a été la marche à suivre des diocèses basques du Sud depuis 60 ans, et ça continue, un chemin réellement synodal. J'arrive au quatrième point, ça va ? Il y a beaucoup de choses, hein ? ça a fouillé. Ça m'a demandé d'aller chercher à droite, à gauche, des témoignages des uns, des autres. Et je traiterai là maintenant deux aspects qui sont liés au Concile et au Pays Basque. Deux points douloureux qui seront démêlés au Concile. Le lien avec nos frères juifs et la question des prêtres ouvriers. Bayonne a été un point d'ancrage des juifs depuis qu'ils furent chassés d'Espagne par les rois catholiques à la fin du XVe siècle. À Saint-Esprit, on comptait plus de 500-600 juifs dans les années 1900. Et l'Église catholique, vous vous souvenez, plus ancienne, enfin, donc la majorité d'entre vous, l'Église catholique, dans la liturgie de la Semaine Sainte, priait chaque année pour les juifs qui ont tué Jésus de Nazareth. Vous vous souvenez de ça? Bon. Mais le Concile a fait supprimer cette prière, tout en priant pour nos frères juifs loin de toute attitude de mépris ou de condamnation. Donc des liens nouveaux ont été tissés entre catholiques et juifs. Et lors de la consécration épiscopale de Mgr Vincent comme évêque de Bayonne, en plein concile, une délégation juive fut reçue à la cathédrale de Bayonne et à la réception qui a été suivie. Voici le texte du concile sur, enfin, un passage parce que sur le lien avec les juifs. Le concile dit « Ce qui a été commis durant la passion ne peut être imputé indistinctement ni à tous les juifs vivants à l'époque, ni aux juifs de notre temps. » Donc dire que les juifs qui ont tué Jésus, c'était inadmissible. Mais il a fallu attendre quand même jusqu'au concile pour se réaliser. C'est la grande intuition de Jean XXIII, qui fut nonce apostolique en Turquie. 95% des musulmans de la Turquie. Un ancien pays chrétien des débuts du christianisme, de Saint-Paul. Et quand on avait fait un voyage de Saint-Paul là-bas en Turquie, j'étais impressionné par ça, quoi. 95% de musulmans et 2% de chrétiens, entre les catholiques, les orthodoxes, et tout ça. Et donc, notre brave pape Jean Roncalli donc, va insister sur la liberté de conscience. La liberté de conscience, avec son corollaire, la liberté religieuse. Je pense qu'Ernest va vous parler de ça, je pense que c'est autour de l'œcuménisme. En fait, la liberté religieuse, mais c'est un corollaire de la liberté de conscience. Voici ce que dit le Concile, entre guillemets, « Le droit à la liberté religieuse a son fondement dans la dignité même de la personne humaine. Car en matière religieuse, nul ne soit forcé d'agir contre sa conscience. » C'est très nouveau, ça. Le catholique, par exemple, n'a pas imposé sa religion et chacun adhère librement à la foi de sa conscience. En conséquence, l'œcuménisme se développe dans le respect réciproque entre obédience chrétienne et le respect des incroyants. En 1968 et 69, prêtres catholiques diocésains de Bayonne et pasteurs protestants se réunissent à Bayonne pour traiter des mariages mixtes entre catholiques et protestants. Comment on va faire ? À la suite du concile, au nom de la liberté de conscience, le droit canon n'exige plus à un conjoint non baptisé de recevoir le baptême pour se marier. Ça date du concile. Il suffit que l'un des deux soit baptisé. Voilà. L'autre point qui a été démêlé par le concile, un point douloureux, très douloureux même, c'est le traitement des prêtres ouvriers par Rome. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, les abbés Gaudin et Daniel, on se souvient surtout de l'abbé Gaudin qui publie le fameux livre « France, pays de mission ». Plusieurs prêtres répondent à l'appel de l'archevêque de Paris, le cardinal Suard, en s'engageant comme ouvriers pour abattre, entre guillemets, pour abattre, comme dit le cardinal, le mur qui sépare l'Église du monde ouvrier. Parmi eux, des prêtres du diocèse de Bayonne, dont Jean Olagaray, que j'avais rencontré, qui habitait à Sparrey, qui s'était marié, et Jean Etchegaray, le frère du cardinal Roger Etchegaray. On parle du cardinal, mais on ne parle pas de son frère, qui était prêtre ouvrier, très important, et qui est très respecté dans la Creuse, il a même sa rue, etc. Bon. coup de massue. Le 6 février 54, le pape Pie XII demande aux PO de rejoindre l'Église et d'abandonner leur engagement professionnel. Il sonne la fin de cette expérience missionnaire amorcée par une centaine de prêtres français en exercice en 1954. Une centaine de prêtres français. La plupart obéirent au pape, mais un bon nombre voulut rester fidèle à la classe ouvrière et fut, terme inacceptable, réduit à l'état laïque. Réduit. Voilà. Comme si l'état laïque, c'était une petite réduction, alors qu'on devrait être promis, promu à l'état laïque. Bon, nous sommes en période de guerre froide entre l'Est et l'Ouest. La raison invoquée par Pie XII était de freiner l'influence du communisme, car plusieurs PO avaient la carte de la CGT, d'autres du Parti communiste. Les théologiens, Congar et Chenu, les grands théologiens, qui accompagnaient les PO et soutenaient leur mission, furent mis à l'index. C'est quand même, il faut le voir. Mais ils seront experts au Concile Vatican II. À la demande des évêques français, le 23 octobre 65, à la fin du Concile, Paul VI autorisera l'expérience des prêtres ouvriers. 52 prêtres reprennent le travail comme PO. En 76, on compte en France 800 PO, prêtres ouvriers. De nos jours, il y a une quinzaine en activité et 300 à la retraite. Une bonne quinzaine de prêtres du diocèse de Bayonne ont été prêtres ouvriers. Bon, et on arrive forcément, et la mer, et la mer. Qu'est-ce que dit le Concile sur la mer? Mais le Concile n'a pas cité une seule fois le monde de la mer, forcément, et encore au moins la mission de la mer. Bon, mais il y a un expert du Concile qui a eu une très grande influence en parlant du développement intégral de tous les hommes et de tout l'homme. C'est le père dominicain breton Louis-Joseph Lebret, ex-officier de marine marchande, qui a aidé les marins pêcheurs à sortir de leur misère en devenant des acteurs de leur propre développement, entre autres par la création des comités locaux de pêche, toujours en vigueur. Puis, sous l'égide économie et humanisme, il sera appelé au Brésil, par les pays africains devenus indépendants, pour les aider à leur émancipation. Et dans les années 20, il avait réalisé une enquête sociologique auprès des gens de mer, enquête qui a révélé l'état lamentable de quart-monde de la pêche française. C'est à partir de là qu'il mobilise les troupes. En 1930, il fonde la JMC, la Jeunesse Maritime Chrétienne, qui verra le jour chez nous en 1939. L'abbaye d'Artegaray, en 1938, aumônier des pêcheurs, alla se former auprès du père Lebret à l'école dite de Saint-Malo, école de formation pastorale intégrale qui touche tous les aspects de la vie, avec 9 autres prêtres des diocèses côtiers. Et à son retour, l'aumônier fonde à Cibourg le foyer des marins, une école de pêche, un centre d'apprentissage pour les filles, un centre d'assistance sociale, etc. Et le père Lebret, c'est un ami personnel de Paul VI, c'est lui qui a fait l'écriture aussi de Populorum Progressio, du fameux discours du pape à l'ONU, je pense que vous vous souvenez, le développement c'est la paix, le développement des peuples c'est la paix. Et donc il a eu une influence importante, il est mort en 65. Dans les années 30, des années 30 jusqu'aux années 70, et certains parmi vous, peut-être, en sont les bénéficiaires, c'est l'Action catholique qui a été le grand moteur de l'apostolat des laïcs, que ce soit avec les gens de mer ou de terre, avec la JOC, la JAC, la Jeunesse Maritime Chrétienne, puis l'Action catholique des adultes, qui a formé des militants dans tous les milieux. L'Action catholique ouvrière maritime a été fondée en 50. Alors que le Concile s'est inspiré de cet élan missionnaire. La mission de la mer, à ses débuts, en 1950, c'était le groupe des prêtres maritimes au service du monde maritime et des laïcs engagés, et aussi le groupe d'une vingtaine de prêtres marins embarqués dans la marine marchande comme matelots et quelques rares à la pêche. Alors, ce groupe a été durement secoué par l'interdiction de Rome. Plusieurs ont quitté les rangs de l'Église. Alors, ça ne s'est pas passé en 1954 pour eux, parce que Pie XII avait dit, bon, les prêtres qui sont en mer et qui partagent la vie des marins, ceux-là, ils peuvent continuer, ainsi que les prêtres qui sont dans le monde rural, des paysans. Ils pouvaient continuer leur mission. Et c'est en 1959 que le Saint-Office fera arrêter cet apostolat. On se souvient qu'en 64, Léon Daraïdou, certains ont connu, a embarqué plusieurs mois comme matelot. Et en 69, Charles Batoubria vivra sa mission d'aumônier des marins de Saint-Jean-de-Lucibourg comme prêtre ouvrier, embarqué à la pêche en qualité de mécanicien durant 4-5 ans jusqu'en 74. Vivre à bord avec les marins, cela donne une nouvelle dimension de la mission. On part de la réalité vécue au large. Il y a une concordance entre ce que nous vivons en mer et les orientations majeures du Concile. En mer se vit une fraternité universelle. La mer unit les peuples. La mer est aussi façonnée par les marées hautes. Et aujourd'hui, c'est une grosse marée haute. Et les marées basses. Vivre la mission, c'est rejoindre celles et ceux qui sont à marée basse et remonter la marée avec eux. Comme le dit le psaume 76, par la mer, Dieu a tracé son chemin. Mais nul n'en connaît la trace. Dieu est présent dans l'âme des gens de mer, et pour nous ouvrir à cette présence, il faut vivre proche d'eux. J'en arrive, enfin, et vous devez être content, j'imagine, parce que ça commence, ça fait une heure, enfin bon, pas tout à fait, mais presque. La conclusion, en deux mots, ma vocation sacerdotale a grandi avec le Concile. S'il n'y avait pas eu le concile, je n'aurais pas été prêtre. Je rentre au grand séminaire de Dax à 19 ans, en 65, en plein concile, à la fête du concile. Nous avons été nourris au lait du concile Vatican II. Nous avons travaillé, ruminé les textes du concile. La formation théologique, scripturaire, apostolique, spirituelle a été greffée au renouveau de l'Église. Ma génération de prêtres, celle des années 70, n'a jamais porté de soutane ni de clergyman. On sortait du moule clérical. Notre mission était de soutenir les laïcs dans leurs responsabilités, de cheminer avec eux, de célébrer le Christ vivant dans les sacrements, dans la parole de Dieu, de célébrer avec les baptisés et non pour les baptisés, mais avec, en les intégrant dans la liturgie, de faire église ensemble, enracinée dans la parole de Dieu et dans le sacrement du frère, de vivre notre foi en Jésus-Christ dans le respect de tous les hommes et dans la conviction que le Christ nous attend dans les Galilées du monde. Nous sortions d'une église qui sentait le renfermer, d'une église qui n'aimait pas trop le monde, qui le regardait de haut, qui condamnait les divorcés, les homosexuels et autres catégories de personnes. Merci au Concile Vatican II d'avoir ouvert les fenêtres de l'Église pour recevoir le souffle d'amour et de fraternité venant du monde. Et merci au monde d'avoir reçu les semences du Verbe, les grâces de la présence divine, le souffle d'une Église qui est descendue de son piédestal pour être servante d'humanité et pêcheur d'hommes. Amen.
Vous venez d'entendre Vatican II et le Pays Basque, une conférence donnée par l'abbé Michael Epalza. Il était enregistré à l'occasion d'un cycle de conférences 60 ans après le Concile Vatican II. Célébrons l'espérance, organisée par la paroisse Saint-Pierre de l'Océan en septembre 2025.